Bien, mais bonjour à tous. Vous m'entendez bien, là ? Ça va ? Faut que je m'approche plus, peut-être ? D'abord, je remercie Marie-Odile de m'avoir conviée à ces journées de formation. Je m'excuse par avance, je ne pourrai pas rester avec vous ce soir, ni pour la visite, ni demain. J'ai cours, mais heureusement, toute la journée, je n'ai pas pu les décaler. Je me présente. Donc, je suis Laurence Espinassi, je suis maître de conférence à l'ESP d'Aix-Marseille. Et j'appartiens, c'est indiqué, à une équipe de recherche qui s'appelle ERGAP, pour ergonomie de l'activité des professionnels de l'éducation. En cela, nous entendons nous intéresser à tout ce que l'on voit de l'activité des personnes, mais aussi à tout ce que l'on ne voit pas, tout ce qu'on aurait voulu faire, tout ce qu'on n'a pas pu faire, tout ce qui nous contrarie, que l'on garde avec soi, etc. Je suis aussi chargée de la formation des professeurs d'art plastique dans mon institution. Voilà, donc ce que je comptais vous présenter aujourd'hui, et on va voir que ça rentre, je pense, en résonance avec les présentations de mes prédécesseurs, c'est le travail que mettent en œuvre les professeurs d'art plastique, mais bon, évidemment, c'est ma spécialité. Je pense que ça fera écho aussi dans d'autres disciplines. Donc, c'est le travail que mettent en œuvre les professeurs d'art plastique pour créer un milieu qui rende compatible et qui mette en lien plusieurs, on va dire, registres ou systèmes d'activité entre le travail des élèves, le travail plastique des élèves, le travail qui est fait en classe, donc, et la sphère des références artistiques. Alors, je précise tout de suite, hein, quand je dis référence aux œuvres, c'est autant, alors bien souvent en cours, parce qu'on va le voir, on n'a pas souvent beaucoup de temps, c'est bien souvent des œuvres projetées, des reproductions, mais ça peut être tout à fait aussi la rencontre avec des œuvres concrètes, les sorties au musée, des interventions d'artistes, etc. Hein, donc je précise, c'est tout ce champ-là hein, que j'entends par rapport aux œuvres. Et donc dans mon titre, il y a indiqué le terme de travail. Alors je sais que ce n'est pas toujours l'idée que l'on a de la sphère artistique quand on pense aux belles choses qui nous entourent, etc. Mais néanmoins, tout ce que l'on voit et ce que l'on entend, c'est aussi le fruit d'un travail. Et c'est par cette entrée que je me propose de vous présenter mon discours. Alors, je présente rapidement mon parcours pour que vous compreniez d'où je parle. Donc, j'étais plus de 20 ans professeur d'art plastique dans ce qu'il est convenu d'appeler les quartiers nord de Marseille. Dans des quartiers, on va dire, peu propices, a priori, à la chose culturelle, à l'approche artistique. Donc, après une thèse qui s'intéressait à l'analyse ergonomique de l'activité des professeurs d'art plastique, dans laquelle je me posais deux questions fondamentales. Finalement, que sait-on de l'activité de ces professeurs au collège ? Je dis au collège parce que c'est quand même encore le seul endroit où cet enseignement est pérenne, puisqu'après, au lycée, c'est optionnel. Puisqu'on appelle quand même, après 40 ans d'existence, ces gens-là toujours des professeurs de dessin, comme d'autres des profs de gym, hein, vous le savez très bien. Et en quoi l'activité de ces professeurs nous renseignerait-elle sur le métier enseignant en général ? Et si on prétend former, dans ce qui était les UFM, aujourd'hui les SP, à ce métier, ben quel est-il ? Y a-t-il des organisateurs de cette activité particulière ? Comment le circonscrire, le définir ? Et donc, je me suis intéressée à l'activité des PCP, professeurs conseillers pédagogiques, puisqu'ils sont chargés d'accompagner les débutants dans leurs débuts. Et donc, j'ai été amenée à comparer finalement le travail des expérimentés par rapport au travail des débutants. Puisqu'il s'agit quand même d'une activité très particulière, où il s'agit de faire produire à peu près 500 élèves par semaine. Quand je dis produire, c'est bien qu'à chaque cours, hein, on a une ébauche, hein, pas forcément terminée, de production plastique, à partir de laquelle on va apprendre, en 55 minutes hebdomadaires. Et donc, on est, bien sûr, dans le domaine de la créativité, mais on est aussi soumis à de fortes contraintes d'efficacité, puisque, de fait, c'est un métier assez rude. Donc, depuis, j'ai poursuivi l'analyse d'activité des professeurs d'art plastique dans divers domaines. Je me suis aussi intéressée, avec un autre collègue, à l'activité des conseillers pédagogiques, là aussi en tant que milieu créé du conseil, pas simplement ce que l'on propose, mais comment on crée un milieu autour de ça, quelles sont les conditions du conseil. Et puis ici, dans ce qu'était l'INRP qui est devenu l'IFE, j'ai participé à des travaux dans un groupe qui s'appelait Nouvelle Professionnalité en réseau Ambition Réussite à l'époque. Et notamment, au départ, j'étais très intéressée par la mise en œuvre des prescriptions de Histoire des Arts. Donc cet immense volume à la fois de savoir, de compétences, qui aborde tous les champs artistiques de tous les pays, tous les domaines évidemment, et dont les professeurs ont été, quand ces prescriptions sont sorties, assez surpris par l'ampleur du registre, et qui finalement, bien que convaincus du bien fondé de cette belle idée humaniste, étaient quand même souvent mis en difficulté dans la mise en œuvre de ces prescriptions. Même si, je le précise, il y a toujours la tension, des difficultés, mais aussi de grandes richesses, puisqu'il a fallu trouver et créer des ressources, qu'elles soient individuelles ou collectives d'ailleurs. Et donc, par ailleurs, je consacre une part de mes activités de recherche à la production de ressources et à l'articulation entre recherche et formation. Et par exemple, si vous avez constaté, je connais pas mal de gens ici, c'est parce que je contribue à la production, à la conception de cette plateforme de ressources en ligne consacrée à la formation des débutants qui s'appelle Néopass Action. Voilà, donc pour résumer, mes recherches donc, sont dans une entrée ergonomie d'activité enseignante et se préoccupent des rapports aux prescriptions. Et donc on a vu ce matin avec M. Dupont combien elles étaient amples aussi par rapport, par exemple, au parcours artistique et culturel, le rôle des milieux et des collectifs de travail, puisqu'il est bien convenu, enfin il est bien, prescrit, c'est le cas de le dire, que ces grands programmes tels que Histoire des Arts ou Parcours artistique et culturel nécessitent le travail en équipe. Donc ça, de façon générale, et puis plus particulièrement toujours en art plastique. Et donc l'articulation entre recherche, intervention, puisque les ergonomes s'intéressent au travail réel des gens, donc nous allons travailler dans leur classe avec eux et dans leurs établissements scolaires, à leur demande. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Donc pour résumer finalement, c'est une fois qu'on a des prescriptions qui nous arrivent, et puisque notre mission est de les mettre en œuvre, quel que soit notre niveau d'opération, finalement, qu'est-ce qu'il nous en coûte, en tant que personnel, qu'est-ce qu'il nous en coûte que de mettre en œuvre ce que l'on nous demande de faire? Alors, pour revenir aux arts plastiques, voilà le préambule des programmes. Alors, je vous le lis. L'expérience pratique et la connaissance de la création artistique fondent cet enseignement. L'œuvre y est considérée tant par ses dimensions plastiques et matérielles que par le réseau de ses significations historiques et sociales. Cette articulation du sensible et de l'intelligible est référencée à des contextes et des problématiques artistiques actuelles ou léguées par l'histoire. Donc vous voyez que l'ambition est quand même massive, hein, ça fait partie de ce que l'on pourrait appeler, dans notre jargon, une situation typique où la prescription est pratiquement infinie, mais où la sous-prescription des moyens pour les atteindre est totale. Je citais M. Danielou. On a quelque chose qui est très ambitieux, et tant mieux, mais néanmoins, comment fait-on pour arriver à ça ? Donc je rappelle ce qui est souligné quand même, on y trouve bien la pratique, la connaissance, la création, des dimensions plastiques et matérielles, et un réseau de signification, donc histoire de donner du sens, comme on dit souvent dans le métier, et lié à des contextes et des problématiques artistiques, qu'elles soient actuelles, donc bien ancrées au champ contemporain, ou léguées par l'histoire. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des conditions de travail. Alors, PAP, pour moi, c'est professeur d'art plastique, je le dis. Ces professeurs sont soumis à de lourdes contraintes. Donc, souvent, ils sont seuls dans leur établissement à représenter leur discipline. Alors que d'autres sont représentés par des collectifs, on est plusieurs professeurs de maths, souvent plusieurs professeurs de PS, par exemple, d'anglais. Ils ont, pour les certifiés, 18 classes, ce qui représente à peu près 450 à 500 élèves, selon les contextes. Une heure d'enseignement hebdomadaire, Ils ont tous les niveaux en charge. Une production plastique par séance et par élève est préconisée afin qu'on puisse. Alors, par élève, ça peut être par groupe d'élèves aussi, hein, mais en tout cas, il faut que l'on puisse avoir en main et sous les yeux. Caractérisé par une pratique à risque, finalement, c'est quand même pas si évident que de gérer ça. Alors, ces contraintes sont contrebalancées par des grandes parts de liberté aussi, puisque le professeur d'art plastique crée ses dispositifs de toutes pièces. Il est seul maître à bord, hein, de ses décisions pédagogiques. Il n'y a pas de manuel scolaire. Et les programmes officiels donnent des grands caps, on va dire, des notions à aborder, des objectifs à atteindre, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Hein, personne ne vous dit comment faire. Donc les prescriptions sont, dans notre jargon, ce que l'on nomme des prescriptions relativement floues, hein, puisque on n'a pas de mode d'emploi. Donc pour des enseignants d'art plastique, finalement, et bien d'autres, hein, il va falloir à la fois tenir sa classe, hein, au sens à la fois de maintien de l'ordre, mais aussi de cohésion du groupe, hein, cohésion des apprentissages, etc. Il va falloir faire la classe, faire avancer ce temps didactique, faire succéder les différentes activités. Et finalement, je l'ai dit tout à l'heure, il est soumis à une obligation de résultat. 55 minutes par semaine, c'est le moment à ne pas rater. Si vous ratez cet instant-là, votre classe, vous ne la revoyez que la semaine d'après. Donc finalement, il y a une obligation de performance aussi. Et donc, j'allais dire encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait souvent imaginer dans les sphères un peu romantiques de l'approche de l'art, bien sûr, c'est dans du beau, peut-être que ça va rendre les élèves plus dociles, plus sympathiques, ou plus avenants, ou plus empathiques avec la vie, mais néanmoins, ce qui préside à l'activité des professeurs d'art plastique, c'est une efficacité. Et je reprendrai le terme d'Alain Kerland, malgré tout, mais qui est aussi le terme d'Yves Clos, qui est grand spécialiste de la clinique de l'activité. Être efficace malgré tout, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, généralement, quelle que soit notre profession d'ailleurs, hein, mais les professeurs évidemment aussi, on essaie de faire bien, on veut réussir notre cours. Donc, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés du moment, on va aller de l'avant. Et donc, on va devoir inventer des solutions au coup par coup, et souvent, on le sait très bien, hein, dans le feu de l'activité, pour pouvoir boucler son cours. Et pour pouvoir, évidemment, dans le but, évidemment, que les élèves apprennent. Donc, ma question ici, aujourd'hui, c'est comment font les professeurs d'art plastique pour mettre en dialogue à la fois le travail des élèves, le travail des artistes, qui est matérialisé par des œuvres ou productions diverses. Et donc, je vais interroger un outil qui a été forgé par la profession, que la profession nomme toujours incitation, je vais y revenir, je vais détailler ce que c'est, pour permettre un rapport aux œuvres dans le cours d'art plastique, ou dans la sphère qui en émane. Alors, cette fameuse incitation, ce qu'il faut remarquer, c'est que, je l'ai dit, c'est un terme qui demeure dans l'usage langagier des professeurs, alors que bien des inspecteurs généraux ont tenté de changer un petit peu ça, avec propositions ouvertes, propositions incitatives, etc., etc., cours en proposition. Mais néanmoins, les professionnels gardent ce terme-là, ça veut bien dire que pour eux, c'est quelque chose qui a du sens. Et généralement, je donnerai des exemples, c'est souvent présenté par une petite phrase et quelques matériaux. Elle est censée proposer une mise au travail rapide et motivante et mettre les élèves en pratique de façon efficace, puisque je le rappelle, nous n'avons que 55 minutes. La réponse à cette incitation est inconnue. Ce qui veut dire, si je reprends les propos ce matin qui ont été dits, on est bien dans un... Personne ne peut augurer des résultats. On est bien dans une sorte d'aventure partagée entre élèves et professeurs. Cette incitation est faite pour dynamiser le groupe, pour donner du mouvement, puisque si on veut produire, il faut bien être en mouvement. Donc on l'a dit, il faut produire en 55 minutes et pour 500 élèves. Et c'est donc un moyen de prescrire la tâche scolaire aux élèves. Et c'est un organisateur de l'activité, à la fois des individus, un par un, mais aussi du collectif de la classe, mais aussi de l'enseignant. Alors j'avais donné quelques exemples, enfin au moins deux. En voilà un. Donc il y a deux vents à Marseille, l'un qui amène la pollution, virgule, l'autre qui la chasse. Sur les tables, les élèves trouvent une photocopie grand format du plan de la ville, des matériaux transparents, translucides, des calques, des rhodoïdes, etc., des plastiques, et les élèves travaillent à deux. Alors, je vous laisse imaginer. Donc, alors, les petits Marseillais savent très bien qu'il y a deux vents à Marseille. C'est assez manifeste. Un qui vous amène dans ce sens et l'autre qui rabat tout dans l'autre. Effectivement, ce mouvement de l'air est très souvent visible par la poussière que ça déplace, les feuilles, les plastiques, etc. Donc, on est bien dans un contexte de réflexion, enfin, on va dire, on est dans une démarche de réflexion qui s'ancre dans un contexte connu des élèves. Néanmoins, je ne sais pas si vous savez répondre à ça, mais en tout cas, il n'y a jamais eu aucune réponse institutionnalisée de « il y a deux vents à Marseille, l'un qui amène la pollution, l'autre qui la chasse ». Donc, essayez de vous mettre en position. Hein. Vous feriez quoi, vous ? En 55 minutes. Alors, si je résume en objectif didactique, il s'agit là que les élèves... pardon. C'était les anciens programmes, mais bon, peu importe, c'est toujours d'actualité. Il s'agit que les élèves interrogent des matériaux qui sont, on va dire, relativement, on pourrait dire, purs, parce qu'ils sont transparents, translucides, clairs et assez séduisants. Il va falloir d'abord qu'ils les interrogent du point de vue de leur matérialité pour pouvoir figurer avec cela de la pollution. Et surtout, il va falloir donner du mouvement. Il va bien falloir figurer cette allée et ce retour. Donc, c'est des élèves de 5e, ils vont avoir des réponses extrêmement variées, des systèmes de balanciers, de glissières, de roulis sur le plan, enfin bon. Donc, ça marche. Oui, je signale et je précise, parce que ça m'a été demandé, à midi, les deux propositions là, que je vous indique ont été mises en œuvre, j'ai les preuves, je les ai vues, dans des quartiers particulièrement sensibles et défavorisés de Marseille. Donc là encore, on peut se demander pourquoi ça marche. Pourquoi on arrive à faire produire des élèves, on va dire, peu enclins a priori à croire vos petites histoires de vent à Marseille, quand on sait qu'ils sont plutôt préoccupés par d'autres activités. La presse en parle suffisamment dans les actualités marseillaises. Donc une autre proposition sur laquelle on va rester un peu plus longtemps. Déluge extraordinaire. Donc là on est en 6e, on est début janvier, et la collègue précise « Ce déluge extraordinaire se produira lors du prochain cours en salle d'art plastique, en utilisant au maximum les objets qui s'y trouvent. » Donc si je... si j'extrapole un petit peu, si je vous décortique la demande, donc c'est une, si on compare, on va dire, à la sphère des termes didactiques généralement utilisés, on est bien dans des situations problèmes. Comment faire advenir ici et maintenant un déluge ? Alors, il est extraordinaire, bien sûr, donc ce n'est peut-être pas un déluge de type météorologique. Donc, il va falloir trouver quelles sont les caractéristiques d'un déluge, cette abondance, ce phénomène qui vous dépasse, etc. Mais il va falloir qu'il se produise ici et maintenant en utilisant les ressources là, ce qu'on a sous la main. Hein. Donc, si on regarde, les mots, dans les deux cas, sont sortis de leur contexte d'usage communicationnel pour revêtir des formes matérielles. On passe bien d'un registre langagier à ce qu'on appelle, nous, des équivalents plastiques. Et ensuite, l'organisation matérielle de ces formes, leur répartition dans l'espace, etc., leur organisation entre elles, deviennent l'objet de l'échange verbal. Parce qu'il ne s'agit pas que chacun... Il y a, vous imaginez bien, si vous vous mettez dans la peau des élèves, vous comprenez bien combien c'est déstabilisant, cette chose-là. Il va bien falloir qu'on en discute. C'est quoi un déluge ? Comment il peut être extraordinaire ? Comment il peut advenir ici ? Est-ce qu'on va le réduire ? Est-ce qu'on va en donner l'illusion ? Est-ce qu'il va falloir... Enfin, voilà. Donc, un tas de questions comme ça dont on va discuter de la pertinence du sens, ensemble, avec l'enseignant et élève, et entre élèves et élèves entre eux. Donc, si on revient à ce que disait Alain Carland ce matin, on est bien dans une première fois. Il n'y a jamais eu de déluge dans cette salle-là. On va le recréer. Hein, on va revenir à ce premier truc-là. On va réinventer le Mistral à Marseille. Hein. Et puis, finalement aussi, si je reprends ces termes, on leur a mis la table. Hein, il y a de quoi faire. Le contexte est donné. Hein. On a du matériel, il y a un milieu qui est créé. Et en même temps, on déstabilise complètement les habitudes de pensée et de vie, par exemple dans la classe ou imaginons dans cette salle. Donc si je reprends des objectifs, des programmes, hein, on est dans un enseignement tout à fait construit, hein, c'est pas, ça paraît loufoque, mais on est bien dans l'école du socle, hein, on a des objectifs transversaux, culturels en général. Ici, ça correspond à l'étude des textes fondateurs, l'épisode du déluge, étude qu'effectue la collègue de français avec la même classe. Et puis en art plastique, si je me réfère au programme d'enseignement, la situation vise à, je cite, « engager les élèves dans une investigation des moyens plastiques à disposition, à travailler les questions de la représentation, de l'expression, de la symbolisation et d'aborder le travail sur l'objet et l'espace. » Donc on est bien dans des objectifs d'enseignement tout à fait concrets. Alors, à mes yeux, ça concerne autant le travail des élèves que des professeurs. Donc, à mes yeux, l'incitation que je viens de vous décrire, enfin, ces incitations que je viens de vous décrire, est un moyen de prescrire la tâche scolaire aux élèves, je l'ai dit. Et la prescription, de manière plus générale, et si on se réfère justement au texte que j'ai cité, c'est ces grands programmes que l'on a à mettre en œuvre, une prescription, c'est d'abord un artefact prescriptif. C'est un outil qui est susceptible de transformer le milieu et les activités de travail. On a bien vu, par exemple, pour l'histoire des arts, où quand des nouveaux programmes arrivent, on est obligé de se reconcerter, de réinventer des outils, de trouver des moyens de mise en œuvre. Et cela va générer, selon les milieux de travail, des instruments différents. On ne va pas forcément réinventer la même chose partout en France. C'est aussi un artefact culturel, et il met à l'épreuve les organisations du travail, du métier, l'expérience subjective, on l'a dit. C'est un organisateur de l'activité, qu'elle soit l'activité collective de la classe, l'activité de l'enseignant, ou l'activité individuelle des élèves. Et une prescription, ça s'inscrit dans une tradition et une histoire, alors évidemment pour nous pédagogique, et généralement elle est produite par un genre professionnel. Alors un genre professionnel pour nous, c'est, on va dire, des manières partagées de penser, de faire un métier. Et c'est pour ça que cette incitation, finalement, puisqu'elle est produite par une profession, finalement garde son nom, parce que c'est comme ça, elle a été construite pour ça, et donc elle convient ainsi. Alors, je vous décrire rapidement le déroulé typique d'un cours d'art plastique. Alors, il y a d'autres manières de faire, hein, mais là, on va dire que c'est le scénario le plus usité, hein, celui qu'on va retrouver généralement. Donc, à partir de l'incitation, il va y avoir une discussion, une espèce de brainstorming collectif, par exemple, sur ben, qu'est-ce que c'est qu'un déluge ici et maintenant. Il va y avoir une mise au travail, des projets qui s'élaborent, des présentations souvent intermédiaires à la classe. Hein. Les élèves donc prennent parole sur leurs intentions. Il va y avoir des réalisations produites. Il va y avoir donc une fois les réalisations effectuées, il va y avoir souvent des présentations collectives à l'ensemble de la classe ou un accrochage, ou aujourd'hui de manière beaucoup plus pratique, soit des enregistrements vidéo, soit des prises de photos numériques qui permettent de garder du stock de mémoire. On parlait tout ce matin hein, de comment garder trace. Effectivement, donc, le numérique a révolutionné les cours d'art plastique parce que justement, on peut garder des portfolios, on peut garder la mémoire du travail, autant individuelle que collective. Et je le rappelle, sur les 4 années du collège au moins, puisque généralement, je l'ai dit, le professeur d'art plastique est seul à bord, donc souvent il suit les générations d'élèves. Et donc, bien souvent, le cours se termine par à la fois la projection des travaux qui ont été réalisés par les élèves et des projections d'œuvres, alors plus ou moins reconnues, soit contemporaines et passées, hein, puisqu'il s'agit d'établir ce lien historico-culturel entre ce qui est advenu dans l'histoire des formes et l'histoire de la production plastique dans le passé, aujourd'hui, et la contribution que pourraient y apporter les élèves à leur tout petit niveau. Donc d'établir ces liens-là. Voilà, donc en général, donc il s'agit bien d'articuler le dire et le faire, hein, que ce soit à la fois le dire et les mots de l'incitation, et le faire des élèves, et sans arrêt avec un retour, on y reviendra, sur ce travail. Donc, la construction de la réponse que chaque élève propose en retour à l'incitation initiale de l'enseignant l'oblige à déconstruire et à reconstruire cet énoncé verbal en des formes matérielles, médiées par divers échanges avec les spectateurs potentiels, alors bien souvent c'est les élèves de la classe, hein, qui participent indirectement à la réalisation de l'œuvre individuelle. Donc on est sans arrêt dans un rapport dialogique entre l'individu et le collectif, entre une demande initiale et la manière de pouvoir la rendre visible. Et ceci, j'allais dire, pratiquement à toutes les étapes de la conception. Donc, pour résumer, hein, donc des mots de l'incitation et ce brainstorming, il y a transformation en outil pour agir, parce qu'il s'agit bien de faire, et de faire faire pour faire apprendre. Il va falloir choisir pour les élèves et attribuer un sens à un mot ou une formulation. Par exemple, est-ce que j'utilise le calque ou le rhodoïde pour faire de la pollution? J'utilise un fil, une réglette pour faire du mouvement? Comment je fais? Donc, attribuer un sens à un mot ou une formulation, tout en attribuant une fonction à un objet, à des matériaux. Et donc, cela donne lieu à des spéculations collectives, en fonction des contraintes posées, par exemple, ici et là, c'est une vraie contrainte, et l'appropriation que chacun fait de cette proposition. Alors, pour un schéma un peu complexe, mais qui, je l'espère, permettra de résumer un petit peu la situation. Donc, ce schéma est emprunté à François Hubeau, qui est un ergonome, et il présente ainsi, finalement, l'activité de travail, en général. Donc, d'une part, on a des prescriptions, ce qu'on demande aux gens, dans une logique technico-organisationnelle, finalement. Voilà, vous devez mettre en œuvre ceci, cela. D'un côté, il y a les opérateurs que nous sommes, chargés de mettre en œuvre. Donc, c'est la logique du vivant, hein, ceux qui font au jour le jour, et donc ce que ça me demande pour le mettre en œuvre. Et ces logiques, bien souvent, sont en conflit. Il ne s'agit pas de dire juste « faisons ça » pour pouvoir le faire immédiatement, ça crée souvent des dilemmes. Faut-il d'abord faire ça? On parlait ce matin, de, je ne sais plus avec qui, de priorité, comment on hiérarchise, par exemple, hein, les priorités. Ça fait partie des dilemmes. Il n'est pas évident qu'il faille s'y prendre comme ci plutôt que comme ça. Donc, pour passer à l'activité, il va falloir passer des compromis opératoires. Alors, quand je dis compromis, c'est pas des compromissions, hein. C'est juste, non, c'est pour de vrai. C'est, ben voilà, vous aviez prévu un beau travail sur photocopie, la photocopieuse est en panne. Vous faites quoi? Vous ne faites pas cours, vous trouvez un autre substitut, vous trouvez, voilà. Ça, c'est ça, hein, passer un compromis. Donc, l'activité, c'est tout ce champ-là, et donc, encore une fois, vous voyez bien que l'action se voit, mais ces compromis que vous passez entre vous et l'action, etc., cela ne se voit pas. Et souvent, c'est ça qui vous contrarie. Et tout ça dans une logique, on l'a dit, ben, pour être plutôt efficace, puisque je ne connais personne qui aille au boulot pour rater son boulot. Et cette efficacité, ben, elle a un aspect économique. Ben oui, il faut bien mettre en œuvre, produire, finalement, pour souscrire aux prescriptions ce qu'on nous demande de faire. Mais elle a aussi une efficacité de notre point de vue, et nous, ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire les effets en retour. Si j'ai bien fait mon boulot, ben, je suis plutôt satisfait. J'ai des effets plutôt bénéfiques en retour. Par contre, si ça n'a pas très bien fonctionné, je risque d'être contrarié. Et si ça dure, je risque même de tomber malade. Donc, finalement, dans l'activité, il y a ce qu'on fait, ce qu'on voit, hein, qui est l'action. Et puis, ça ne marche plus. Et puis, ce que ça fait. Hein. Donc, on a des indicateurs, d'une part, d'activité, et puis des indicateurs, d'autre part, de résultats. Alors, je sais bien que souvent, ça fait bondir quand on parle de l'art comme ça aussi, mais de fait, ça marche aussi comme ça un peu. Donc, dans une classe, finalement, la grande chance que l'on a, nous, en art plastique, mais dans d'autres disciplines aussi, hein, c'est que la production des élèves, ben, elle se voit. On a sous les yeux, hein, cette espèce d'indicateur objectif de quelque chose qui a été produit, qui est à la fois donc, un indicateur d'activité, mais aussi un indicateur de résultat, qui est donc un indicateur d'efficacité, même si, évidemment, ça ne suffit pas. Ce que l'on voit n'est pas forcément ce que l'on a voulu faire, ce qu'on aurait aimé faire, et si on avait eu des sous, une grue, ce qu'on aurait pu faire à l'extérieur, etc. Et dans une classe, donc cette efficacité pour les productions des élèves, fichtre, il y a tout qui se déchaîne, la production des élèves, elle est bien conçue en fonction de la prescription qui a été conçue et mise en œuvre par le professeur d'art plastique. Si je compare, et je précise, hein, je n'ai absolument pas la prétention de dire que c'est la même chose, mais si on compare à la production, alors évidemment en fonction des programmes, mais à la production des artistes, au travail de l'artiste, lui évidemment, il s'auto-prescrit. Hein, son propre projet artistique, il va définir lui-même ses contraintes, il va définir son contexte et son projet, mais néanmoins, lui aussi, il y a ce qu'il se voit, ce qui va rester, c'est ce qu'il se voit, et ses intentions, ce qu'il a dû négocier pour arriver à ce résultat-là, il y a de fortes chances pour qu'on n'y ait pas accès. Ça va sur la digestion? Vous n'êtes pas trop... écrasé. Alors, donc ce qui, justement, donc puisqu'il y a toute une part du travail artistique, enfin du travail en général, hein, quel qu'il soit, mais du travail artistique, j'allais dire presque encore plus, qui nous est caché, qui nous est inaccessible en grande partie, un des grands challenges, j'allais dire, d'un cours d'art plastique notamment, mais bien, encore une fois, très certainement chez d'autres disciplines, il s'agit d'apprendre à lire le travail invisible. Entre ce qu'on demande à faire, donc, quel est le lien finalement entre les compromis, les difficultés que vont rencontrer les élèves dans une situation aussi saugrenue que déluge ici et maintenant, et par exemple, on le verra après, les difficultés qu'a eu Michel-Ange pour arriver à peindre le plafond de la Sixtine. Alors, je vous donne quelques productions d'élèves, quand même, pour que vous ayez une idée de ce que peuvent faire des élèves en si peu de temps et en sixième. Et je rappelle, en contexte très, très défavorisé à Marseille. Pour l'anecdote, c'est exactement dans la cité où circulent souvent quelques Kalachnikov. C'est là. Donc, pour Déluge extraordinaire, certains... Donc, ils ont travaillé par groupe de 3 à 4, certains... Et donc les productions ont été filmées par le professeur pendant que les élèves les présentent. Donc il y a bien un travail d'oral, de présentation et de finalement d'apport d'éclaircissement à la réponse. Donc ce groupe a créé un événement festif dans une boîte cadeau d'anniversaire avec tous les détails qui évoquent ce type de fête. Ils ont provoqué un déluge de bonbons colorés et translucides et chacun est invité à se servir. Vous voyez la chute là, des bonbons ici. Donc ce matin, Alain Kerland parlait de jeux, hein, de cérémonies, de symboles. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on est bien dans ces registres-là. Un autre groupe a déposé un tas de petits papiers colorés sur le haut d'une armoire. Et au moment où on va filmer, avec un coup de balai, faire s'envoler ces petits papiers multicolores. Et donc ils créent un déluge de papiers colorés dans la classe. Donc on est bien in situ, et ça modifie hein, au passage l'ambiance studieuse et la perception de l'espace qui devient mouchetée de couleurs. D'autres ont choisi de proposer une espèce d'arc de cercle où ils déploient des arguments, on va dire, politiques et écologiques, défense de la planète, attention, si on fait pas attention, si on prend pas soin de notre environnement, il va advenir ceci, cela, et éventuellement un déluge. D'autres encore ont réalisé une petite maquette où il y a des petits villages stylisés, des petits éléments architecturaux très très simples, mais on ne le voit pas très bien. En tout cas, ils ont figuré des éléments climatiques, alors des éclairs, une tornade ici. Et vous voyez que l'élève, par un système de coulisseaux, là, peut faire évoluer les tornades, les éléments divers dans son petit monde. Il y a tout, hein, la pluie, un rideau de pluie qui peut être amovible, etc. Et puis, assez surprenant aussi, ce groupe de demoiselles, là, qui a carrément pensé en amont au fracas du tonnerre qui allait sûrement précéder un déluge. Et donc, elles ont créé des espèces d'abord de maracas, des boîtes de conserve, enfin, un tas de petites choses qu'elles ont trouvées. Donc, il y a un bruit. Ensuite, elles vont ici, là, ébranler un peu les étagères sur lesquelles sont posées un tas de bazar, et en faisant bouger, au fur et à mesure, il y a tout qui va s'effondrer, donc en faisant encore du bruit. Et au final, elles vont emprunter les séchoirs à cheveux qui d'habitude servent à sécher la colle, la peinture, etc., pour faire s'envoler le reste, et encore une fois, avec un environnement sonore. Et puis enfin, d'autres élèves, alors là faisant explicitement référence à l'œuvre de Géricault montrée en cours de français justement par la collègue, réinvestissent le radeau de la Méduse et ont carrément fait un espèce de petit radeau, alors évidemment très simple, avec des petits personnages, etc. Et ils vont activer devant le professeur les deux robinets, donc évidemment l'eau monte, et puis le déluge d'eau envahit le bateau, et puis les petits personnages partent à la dérive. Donc si on récapitule, on voit bien que les élèves ont complètement souscrit à la demande. Des déluges multiples et variés, extraordinaires donc, sont bienvenus dans la classe, en utilisant les ressources locales. Alors, donc si on résume, hein, du point de vue organisationnel, ils ont su profiter de l'espace, du mobilier, de l'équipement de la classe, etc. Ils ont amené, alors que ce sont les élèves, encore une fois, qui bien souvent n'amènent rien en classe, hein, ils ont ramené quelques éléments extérieurs, manquant pour la réalisation de leur projet, des bonbons, etc. Du point de vue du sens, ils ont su reconvoquer dans un dispositif plastique des éléments disparates venus d'ailleurs, un événement amical ou familial, l'anniversaire, un discours politique, des phénomènes sonores qu'ils ont eux-mêmes retrouvés. Et du point de vue social, là encore, je pense que ça fait écho à ce que disait Alain Kerland ce matin, dans l'espèce de renormalisation de la forme scolaire, il y a quand même plusieurs groupes qui s'autorisent à questionner la forme scolaire en y provoquant des événements extraordinaires, in situ, faire du bruit, envahir l'espace de la classe, modifier l'apparence, etc. Et faire la fête. Tout en respectant le cadre, puisqu'à la fin de l'heure, tout sera rangé. Donc, à mon sens, c'est quand même une petite réussite, mais c'est pas mal. Alors, la difficulté ensuite, c'est comment faire le lien avec ça, par exemple, qui sont deux des reproductions d'œuvres que ce professeur a présentées. Donc d'un côté, il s'agit d'un photogramme d'une vidéo de Bill Viola. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre, mais c'est une cataracte vraiment d'eau qui sans fin s'abat sur un homme qui essaie de traverser. Ça. Et l'autre, par exemple, c'est donc Michel-Ange, le plafond de la Sixtine. Et il va bien falloir trouver une manière d'établir la connexion entre ce qu'on vient de faire, là, ce qu'on vient de voir, ces petites productions modestes, hein, mais qui néanmoins sont advenues dans la classe, et puis, par exemple, ces œuvres-là. Alors, la professeure avait remarqué que les élèves avaient du mal à établir ce lien, cette connexion. Au début, ils trouvent que Michel-Ange, c'est très bien fait, et c'est beau, hein, mais ça s'arrête là, donc c'est pas très facile. Mais par contre, au bout d'un moment, après avoir dit « Ouais, qu'est-ce que c'est ce truc on comprend rien, madame », ils ont trouvé que Bill Viola était finalement une œuvre plus appropriée pour signifier la puissance du déluge. Alors qu'au départ, bon, c'était un peu du n'importe quoi. Donc il y a bien une sorte de méthode de lecture qui s'instaure entre le travail qui vient d'être réalisé par les élèves et un rapport aux œuvres. Et le problème pour nous, c'est comment ça marche, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je fais l'hypothèse, hein, je fais l'hypothèse que, en fait, ce qu'on met au jour dans ce dialogue incessant entre la production, les œuvres, le travail fourni, la demande de l'incitation, par exemple, c'est qu'on va mettre au jour ce que j'appelle, moi, parce que c'est le langage des ergonomes, un registre de compromis opératoire. C'est-à-dire que ce soit autant quand on parle d'une œuvre, on va dire institutionnalisée, ne serait-ce que parce qu'elle est montrée par le professeur dans la classe, ou la production des élèves, en fait, on va poser des questions sur, effectivement, ce que j'ai sous les yeux. Tiens, c'est de quelle nature? Que vois-je? Qu'est-ce qui me saute aux yeux? Est-ce que c'est une esquisse? Est-ce qu'une sculpture, une architecture, une peinture, etc. Et systématiquement, il est demandé aux élèves quand même d'affiner, de justifier leurs réponses. Et donc on est bien dans un mouvement sans arrêt entre ce que l'on croyait possible comme type de réponse et finalement ce qui s'avère impossible. Et on est bien dans systématiquement une création d'histoire, une élaboration d'une histoire entre ce qui est objectivement, matériellement faisable, et puis notre propre subjectivité, alors qu'on soit un petit élève ou qu'on soit plus reconnu. Et donc, on est bien dans ce qui m'a frappé, alors c'est curieux parce que je fais ce métier depuis fort longtemps, mais ça ne m'était, je n'avais jamais réalisé que le registre de questions et de mise en dialogue, en fait, entre le discours que l'on tient sur des œuvres ou le discours que l'on tient sur la pratique des élèves, était finalement pratiquement de même nature. C'était les mêmes questions qu'on posait systématiquement, et puis évidemment après l'élaboration du discours et de la réponse se crée, pour finalement créer des rapports dialogiques pour passer de la forme visible au sens. Et quand je dis, oui, c'est ça que je voulais préciser, quand je dis registre de compromis opératoire, c'est bien, si on se réfère au schéma que j'ai montré tout à l'heure, c'est bien que rien n'a été simple pour Michel-Ange quand il a fallu qu'il figure un déluge à je ne sais combien de mètres de hauteur, avec le pari fou de faire lever les yeux et avoir mal au cou à tous les pontifs et grands de ce monde à l'époque. C'est un point de vue particulier. C'est une démesure de surface absolument incroyable. Donc c'est des techniques particulières, c'est des échafaudages, c'est un engagement physique et corporel et psychique, évidemment, fou. Et donc, quand on va à la Sixtine, on ne se pose plus ce type de questions, très peu. Pourtant, pour lui, c'était quand même un sacré challenge. Pratiquement aussi fort que celui des élèves d'avoir fait sucrer un déluge ici et maintenant. Donc si on résume notre affaire, on est sans arrêt dans une triade insécable, dire, faire et penser. Les élèves, à partir des mots de l'incitation, font pour pouvoir dire, la verbalisation, puisqu'il va falloir qu'ils expliquent leur projet. Le dire leur permet de penser ce qui a été fait, et dire le faire Ça leur permet de penser encore et plus loin sur des ouvertures. Je crois que là aussi, ce matin, Alain Kerland parlait de cette ouverture des possibles vers d'autres horizons que simplement ceux qui sont proposés à l'école. Et donc, ce qu'on appelle phase de verbalisation, c'est-à-dire que le faire suscite des commentaires collectifs qui permettent de re-questionner ensemble le jeu de chacun entre le dire, le faire et le penser. Et en fait, si on parle d'évaluation, finalement, il s'agit de valider l'adéquation de la réponse plastique à l'incitation en regard des arguments qui lui ont été associés, et pas simplement en fonction de ce qu'on voit, et d'établir le lien avec le réseau de sa signification historique et sociale. On revient donc au préambule des programmes. En regard des réponses apportées par les artistes en leur temps à une problématique plastique voisine. Évidemment, ce n'est pas la même, mais ça ressemble un petit peu. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Donc, j'ai bientôt terminé. Si j'en viens à la formation en art plastique, ce qui est quand même mon boulot, cette formation, aujourd'hui, les étudiants, on va dire, que nous accueillons aujourd'hui en master, normalement, dans leurs années de licence, ils ont été plasticiens. Alors, comme je sais, évidemment, en EPS, nos collègues ont été des sportifs. Généralement, les mathématiciens ont aussi pratiqué les mathématiques, j'ose espérer. Donc, ce sont des gens donc, qui ont pratiqué. Ils ont une expérience de l'atelier, etc. Donc, ils ont aussi des connaissances en histoire des formes, en histoire de la pensée, des techniques. Et ils devraient être capables à la fois de produire, mais aussi de recevoir une œuvre. Normalement, ces savoirs, on va dire acquis, académiques, savoirs de référence, qui donc pour eux appartiennent à deux champs, celui de la pratique et celui de la théorie, on va dire, sont systématiquement réinterrogés par des projets toujours réactualisés. Un projet plastique, c'est jamais le même que celui de la veille. Il va falloir donc systématiquement, ces savoirs, on les remet en jeu, on les rejoue autrement, peut-être encore un coup de la première fois, peut-être encore. Et donc il y a une renormalisation systématique de ces savoirs en situation et en nouvelle situation. Et donc il s'agit de former finalement des sujets capables, plutôt que des sujets épistémiques, si on emprunte la citation de Pastré, c'est-à-dire des gens qui disent « je peux » ou « je ne peux pas », plutôt que « a priori, je sais » ou « je ne sais pas ». Et donc ces savoirs académiques ou de savoirs de référence sont systématiquement investis, ils sont singuliers et contextualisés dans l'activité. Donc, tout à l'heure aussi, Alain Kerland parlait de... c'était quoi un triangle de formation réciproque, là, ou mutuelle, je ne sais plus. Donc il y a bien un véritable dialogue qui s'instaure à la fois entre ces savoirs, les situations de pratique et le contexte nouveau. Donc il y a un refus d'une hiérarchie entre savoir investi et savoir disciplinaire, et qui doivent forcément s'indiscipliner pour dialoguer avec les savoirs des protagonistes et des activités de chacun. Si je prends Déluge, par exemple, le savoir initial de référence, c'est plutôt la météorologie. On réinterroge ces savoirs-là dans un autre contexte, par exemple. Et pour donc les donc ça, ce sont, on va dire, les visées de formation peut-être générales pour les enseignants. Et donc, ce qui nous importe à nous dans la formation de ces enseignants, notamment en art plastique, c'est comment on va les former finalement à concevoir des contextes de type ces incitations que nous avons vues, qui permettent la transposition des compétences qui sont inscrites là au tableau auprès des élèves. Il y a une espèce de double mouvement là. Alors, pour terminer, finalement, cette fameuse incitation, elle a une double fonctionnalité, à la fois ergonomique, puisqu'elle va organiser le travail dans la classe, son rythme, sa disposition, son matériel, etc. Et puis didactique, puisqu'elle est bien là pour, pour pouvoir pour transmettre, enfin non, c'est pas pour transmettre les savoirs, c'est pour créer le milieu qui permettra aux professeurs de construire les savoirs avec les élèves. Donc elle est bien l'incitation elle-même, cette petite phrase des petits matériaux ne suffit pas en elle-même, elle ne fonctionne que si elle est en regard d'un travail plastique autre et donc du champ référentiel des œuvres plastiques. On crée bien un milieu pour faire et pour apprendre. Et puis, finalement, les œuvres permettent une mise en dialogue de différentes sphères d'activité. Donc, par l'incitation, on met les élèves au travail, mais on apprend aussi à lire le travail des artistes. Et on est bien dans l'art comme expérience, hein, et il s'agit bien que les œuvres soient considérées non pas comme isolées des conditions humaines qui ont présidé à sa création et, les conséquences humaines qu'il engendre dans sa vie et sa... Pardon, j'aurais pu le dire. Dans la vie et l'expérience réelle, il s'agit de restaurer cette continuité entre les formes raffinées et les plus intenses de l'expérience que sont les œuvres d'art et les actions, souffrances et événements quotidiens universellement reconnus comme les éléments de l'expérience. Donc vous voyez qu'on est bien dans le travail, là aussi. On est bien dans le vivant, et ce matin, là encore, Alain Kerland parlait des normes, et on est bien dans une plasticité de la norme, on va réinterroger, hein, renormaliser hein, en contexte ce qu'on nous demande. Et donc, la question, c'est quel milieu pour y parvenir? Et si j'avais, par rapport, par exemple, au parcours artistique et culturel, une petite crainte, c'est qu'on a depuis longtemps dans le milieu enseignant, hein, notamment dans les disciplines artistiques, c'est que je pense qu'il ne suffit pas de décréter le rapport à l'artiste ou le rapport aux œuvres pour que ça fonctionne, pour que ça apporte quelque chose. S'il n'y a pas un milieu spécifiquement, un milieu dialogique construit, un milieu qui met vraiment en rapport la pratique des élèves et celle des artistes que l'on met en présence, ça apporte peut-être des choses, peut-être des trucs, j'en sais rien. Mais en tout cas, à mon sens, c'est pas suffisant. Et on a vu, enfin, d'expérience là, de la mienne, d'enseignante, de formatrice, etc., pour avoir accueilli de multiples artistes, pour être allé de multiples partenariats institutionnels, ben, on sait très bien qu'il y a des conditions très spéciales pour que ça fonctionne. Et la condition sine qua non, c'est vraiment le travail. La seule condition qu'on a à se rencontrer, hormis le plaisir qu'on a à rencontrer des gens et des contextes charmants, j'allais dire, ben, c'est bien le travail que l'on a à faire ensemble. Sinon, c'est sympa, mais c'est peut-être pas très fécond. Et deuxième chose, c'est que ça se construit et ça s'élabore dans la durée. Hein, on a parlé ce matin de garder la mémoire, garder les traces, etc. Et on n'a pas le temps de détailler. Évidemment, c'est la condition sine qua non, c'est la construction sur la durée. Déluge extraordinaire, en soi, c'est une belle expérience. Mais si on ne réinvestit pas dans d'autres contextes ce qu'on a appris ici et là, ça risque d'être lettre morte. Donc il va bien falloir une réactivation, tout un travail d'apprentissage, comme disait Brunner, spiralaire. Hein, on va reprendre, redéployer, reconstitutionner. Et je crois que je terminerai là. Donc si on veut reconnaître le travail réel des enseignants, mais aussi des autres professionnels de l'éducation, que ce soit nos partenaires, les artistes qui travaillent, etc., eh bien, il faut bien reconnaître cette double efficacité dont je parlais tout à l'heure, entre ce qu'on demande et ce que ça demande aux personnes que de faire ça, parce que, je le répète encore, hein, dans les conditions, et je l'ai vu dans les réponses aux questionnaires que vous avez adressés, la difficulté du faire, hein, du temps imparti, de la mise en œuvre, des contrats passés, etc., c'est très lourd. Hein. Et donc, effectivement, ça nous coûte. Trouver des partenaires, ça nous coûte, hein, c'est... par exemple. Donc, on est toujours partagé, quelles que soient nos activités de travail, entre une efficacité objective, par exemple, le travail d'enseignement, hein, les résultats, finalement, hein, qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce qui s'apprend, est-ce que mes élèves ont été davantage socialisés suite à mon action pédagogique, et puis une efficacité subjective, c'est-à-dire, ben, est-ce que je pense que j'ai fait du bon boulot? Est-ce que je pense effectivement que ce travail me développe, hein, me fait plaisir? Et là encore, pour faire référence à Alain Kerland, effectivement, on ne peut pas se contraindre à créer des parcours, des partenariats, si on n'en tire pas non plus de la satisfaction et un développement, si on n'apprend pas justement dans ce rapport mutuel. Voilà, et évidemment, tout ça est toujours relatif, contextualisé, dans des circonstances particulières et de manière individuelle et collective. Voilà, je m'arrêterai là, et pour ceux que ça intéresse, j'ai laissé des biblios, des textes. Alors, je n'ai mis que les textes concernant les arts plastiques et l'histoire des arts. Voilà, je vous remercie de votre attention.